poids et turbulence.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission de la série « Foi et turbulence ». Je suis Bruno Demers, dominicain, professeur à l'Institut pastoral des Dominicains, et c'est moi qui ai le privilège aujourd'hui d'animer ce grand entretien. Un grand entretien qui va porter sur un sujet d'actualité, l'hospitalité. Ce sujet d'ailleurs fera l'objet d'un colloque que nous aurons bientôt à l'Institut de pastoral et dont je vous reparlerai à la fin de cette émission. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité, le frère dominicain Claudio Monge. Claudio, bonjour Claudio.
Bonjour tout le monde.
Claudio est italien et il vit à Istanbul, en Turquie, depuis déjà 13 ans. Il y a 5 dominicains en Turquie, 2 à Izmir et 3 à Istanbul. Et à Istanbul, donc, le frère Claudio est responsable du Centre de documentation interreligieuse. Vous devinez que là-bas, on est en plein milieu musulman. Alors, c'est important de développer cette expertise. Claudio a obtenu son doctorat en théologie à l'Université de Strasbourg. Il est chargé de cours aussi à l'Université de Fribourg et de Bologne, en plus d'avoir enseigné dans plusieurs autres universités un peu partout autour de nous. En 2014, Claudio a été nommé consultant du dicastère pour le dialogue interreligieux par le pape François. Alors, il est vraiment impliqué dans les instances officielles sur cette question. Il est auteur de nombreuses publications, dont un gros livre aussi, qui s'intitule « Dieu hôte, recherche historique et théologique sur les rituels de l'hospitalité ». Claudio parle italien, anglais, français, espagnol, arabe et turc, mais on va se limiter aujourd'hui au français pour cette entrevue, si tu le veux bien, Claudio. Alors, j'aimerais dans un premier temps que tu nous dises comment tu en es venu à t'intéresser à ce sujet de l'hospitalité il y a 15 ans, peut-être même plus que ça, cet intérêt-là.
Vaste question. En fait, je pense que sans doute il s'agit de l'aboutissement, je dirais implicite, d'un parcours non seulement intellectuel, mais bien avant existentiel. Voilà pourquoi un si long acheminement. J'ai eu la chance, tout d'abord, je pense, de grandir dans une famille qui m'a appris le goût de la rencontre, du voyage qui est découvert de culture, des personnes, bien plus que recherche de l'exotique. Je me souviens, il y a déjà 40 ans, avec mes parents, je me suis retrouvé dans l'Afrique noire, au Cameroun et au Tchad, en petit gamin. C'était la première fois que des gamins blancs arrivaient dans cette région très pauvre, où mes parents allaient pour un travail de coopération avec des missionnaires diocésains, etc. Donc, je me suis imprégné de cette réalité, de la rencontre, de la diversité.
Tu as vécu là un certain temps?
Ben, c'était en fait une coopération assez courte, le temps d'un été, 3 mois, 4 mois.
Quand même.
Mais c'était courageux de la part de mes parents d'amener 2 petits gamins, moi et mon frère, à l'occurrence, le troisième n'était pas encore né, le cadet, justement petit gamin dans une région où il n'y avait pas de l'électricité et de l'eau courante. Donc c'était vraiment dans des conditions un petit peu limites, qui d'ailleurs nous ont fait du bien, parce que nous ont fait apprendre véritablement comment une bonne partie de l'humanité vit, même à présent. Mais de toute façon, un tournant décisif, sans doute, de ma vie est représenté par la demande de mes supérieurs, beaucoup de temps après, quand je suis entré dans l'ordre dominicain, l'ordre des frères prêcheurs, qui me propose, le jour de Noël 96, je me souviens encore, de me préparer à intégrer un projet culturel, avant que pastoral, en terre de Turquie, où, à l'époque et même à présent, ma province religieuse avait relevé depuis plusieurs années, justement 2 couvents, comme tu as dit au début de cet entretien.
C'est ça, ça fait longtemps que la province italienne est responsable implantations en Turquie.
Oui, ça fait presque un siècle, mais la présence dominicaine date dans cet coin du monde, pratiquement des origines de l'ordre même.
Donc, oui, 13e siècle.
Voilà, 13e siècle, c'était vraiment la porte vers l'Extrême-Orient. Donc, autrefois, on voyageait sans avion, mais on voyageait énormément malgré tout, et à la rencontre vraiment de l'autre. Donc, justement, en 1996, commence cette progressive découverte de la Turquie, du Proche-Orient, etc. Et le début donc d'une fréquentation qui deviendra de plus en plus déterminante dans ma vie. Je ne peux pas le nier, le choc culturel a été très important. L'impression d'être tombé dans un autre monde, pourtant très proche de notre monde. Parce que c'est 2h30, 3h d'avion, tout simplement, de l'Italie. Et particulièrement marquant, et je pense dès le début, l'impact avec une langue terriblement compliquée, le turc. Et là, presque impossibilité de communiquer sans le connaître et avec d'autres langues. Donc c'est un petit peu comme un retour à l'enfance. L'enfant qui apprend à articuler avec crainte les premières phrases avec un sens intelligible, plus ou moins.
Ah oui, parce que tu n'avais pas étudié le turc avant de te rendre là.
Alors, non, du moment du premier impact. Effectivement, avant de m'installer après de façon permanente, il y a 13 ans, évidemment, il y a eu des années d'études aussi du turc à l'étranger, notamment à l'université de Strasbourg. Mm-hmm. Mais c'était, un acheminement progressif. Et très très long, qui d'ailleurs, je pense qu'on n'est même pas encore terminé aujourd'hui. Non, et donc, ce sentiment d'étrangeté un petit peu radical, qui pourtant, dès le début, est un petit peu compensé par la découverte, je dirais, étonnante, et quelque peu rassurante aussi, d'un sens profond de l'hospitalité, qui est typiquement orientale.
Ah oui, tu as fait l'expérience de ça en arrivant là-bas.
Absolument, dès le début, dès les premières expériences, dès les premiers courts séjours là-bas. Et donc cette attitude transmise par une attention bienveillante, même à Istanbul, une mégalopole de 17 millions d'habitants, où les gens dans les petites ruelles se parlent, essayent de se connaître.
Il y a une vie de quartier.
Absolument, ce qui est presque inimaginable actuellement en Occident, de plus en plus difficile à imaginer, non ? Des gestes qui se multiplient parfois presque rituels, comme le petit verre de thé offert 5-10 fois par jour à chaque occasion de rencontre.
Tu as fait l'expérience de ça ?
Absolument ça, dès le début. C'est très étonnant. D'ailleurs, c'était très instructif aussi parce que c'était une occasion pour commencer à parler, à dire quelques mots avec des gens simples, etc. Ou, par exemple, quand on demandait de montrer le chemin, donc il t'accompagne pendant des centaines de mètres pour te montrer véritablement le chemin que parfois, peut-être, ils ne connaissent même pas. Mais ils essaient quand même.
Ah oui.
Ils ne renoncent pas à faire quelque chose pour s'acheminer avec toi, etc. Donc, une générosité, je dirais, instinctive, dont je pense qu'on a un petit peu perdu les traces depuis longtemps en Occident. Donc voilà, je découvre le sens hospitalier, que ce sens hospitalier s'enracine dans une capacité vraiment de prendre et de donner du temps. Prendre et donner du temps. Donc de vivre la vie à un autre rythme pour faire la place, pour faire place à la rencontre.
Oui, je pense que tu m'as déjà raconté quelque chose concernant
oui,
ça.
Oui, en effet, souvent je raconte l'expérience de la première visite à un coiffeur de quartier. Non, je me souviens que déjà un petit peu déstabilisé par l'impossibilité de prendre un rendez-vous, comme on est habitué, non, à une heure précise, pour éviter de perdre du temps. Je suis arrivé dans ce salon de coiffure et j'ai découvert que j'étais un client parmi d'autres, en attente du même service. Et pourtant, j'avais l'impression d'être attendu. Mais
ah oui, vous aviez fixé quand même une heure de rendez-vous.
Mais l'heure était vague. J'ai bien compris que pour ces gens-là, ça voulait dire dans la demi-journée, plus ou moins, que j'aurais pu arriver à aboutir à mon but, justement. Et alors, en plus, quand finalement semble arriver le temps pour la coupe de cheveux, la question déroutante du type, c'est que est-ce que je pourrais vous offrir un thé ? Ça vous ferait plaisir ? Et là, totalement déconcerté, je dis, mais c'est pas normal. Et finalement, je comprends là, définitivement, que je dois me mettre au rythme, justement, de l'Orient au rythme de cette hospitalité. Alors, ben, évidemment, j'accepte de bon gré.
Ah oui, tu as accepté de prendre le thé avec lui avant.
Et voilà. Et donc, finalement, la simple coupe de cheveux qui devient l'entrée dans une culture autre.
Ah oui,
intéressant. L'entrée dans des rapports intéressants, profonds, à la fois discrets, mais attentionné, capable de te mettre à l'aise, finalement, même dans ton étrangeté, etc., parce que c'était évident que j'étais étranger, mon turc était vraiment très, très limité à l'époque, pas de problème, tu es parmi nous, et c'était vraiment, vraiment bouleversant, voilà. Et évidemment, ça m'a beaucoup interpellé. Et c'est à la suite de cette expérience forte au quotidien d'hospitalité qu'évidemment, je commence aussi à y réfléchir de façon plus intellectuelle par l'intermédiaire de lectures multiples d'auteurs marquants comme un Louis Massignon, cet ancien militaire alsacien devenu rabisant prisé, très prisé, et qui poussa son analyse justement de l'hospitalité au niveau probablement jamais atteint avant, pour essayer d'en saisir le sens spirituel.
Ah oui, c'est au contact de la civilisation orientale que
tout
lui en est venu à s'intéresser
fait,
vraiment à ce thème-là, parce absolument. Que c'est pas banal. Bon, je veux dire, aujourd'hui, il y en est d'actualité, mais pour nous, en tout cas, c'est
tout à fait, plus précisément pour lui, c'était en terre d'Irak. Il avait été blessé dans la guerre, et donc il a été, par l'accueil d'une famille musulmane, par l'hospitalité, qui a été donné à une famille humaine, qui l'a soigné,
oui.
il découvre non pas seulement la valeur de l'hospitalité de l'Orient, mais peu à peu, il retrouve aussi le sens de sa foi chrétienne grâce à cet accueil de croyants autres, comme ces musulmans qui étaient capables de traduire leur sens spirituel dans une attitude d'accueil pour l'inconnu, pour l'autre. Pour l'autre sacré.
Ah oui, c'était en tant que musulman que vraiment il accueillait Massignon comme
tout
ça.
Tout à fait, parce que leur identité religieuse n'était pas du tout cachée, c'était bien évident, ouais. Et en même temps, n'était pas, comment dire, il n'y avait aucun essai de d'englober l'autre,
oui,
le tirer de son côté. Il y avait un respect de l'altérité, mais les motivations religieuses étaient évidemment fondamentales pour ce geste d'accueil. Voilà,
c'est pas dans le but de faire de lui un musulman, c'est ça, comme
absolument.
Tu dis. C'est vraiment...
C'était comme une exigence de leur foi qui n'avait pas de prétention prosélyte.
Ah oui. Oh. C'est intéressant, oui.
Et donc, voilà, peu à peu, donc, et je commence à me demander, mais ça serait intéressant de décliner l'hospitalité, au moins au cœur des traditions des sémitismes, donc ce berceau des trois religions abrahamiques, des trois religions monothéistes. Et donc, commence un long chemin qui me portera justement aussi à cette thèse doctorale en théologie des religions à Strasbourg.
Ah oui, et déjà à ce moment-là, tu avais la conviction que tu pouvais faire d'un thème semblable l'objet d'une recherche doctorale. C'est quand même pas banal. Hein?
Je pense que oui, et tout de suite, j'ai aussi eu l'impression que le grand problème aurait été d'arriver à toujours ouvrir un chemin dans une matière tellement vaste qui commençait à m'échapper de tous côtés.
Ah, tu avais déjà à ce moment-là cette impression, en effet, que ça...
Tout à fait. Donc, le grand travail pendant des années sera à chaque fois refocaliser un petit peu l'attention sur le thème fondamental.
Ah oui, eh bien, tant mieux. Ça devait être en effet très stimulant déjà comme point de départ.
Au clocher Jérusalem, je voudrais voir en même temps briller à l'aurore prochaine la croix, l'étoile et le croissant. Le cœur des hommes. sont-ils donc tous ceux qui aiment la croix, l'étoile et le croissant? Ils ont pris des sentiers de haine. Dieu sait pourquoi ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur peine. Bientôt, ils ne le voudront plus. Le cœur des au clocher de Jérusalem, je voudrais voir en même temps tous ceux qui portent au fond d'eux-mêmes la croix, l'étoile, le croissant.
Claudio, cet intérêt pour l'hospitalité que tu viens de nous retracer, faut quand même reconnaître que ça semble entrer en contradiction avec une perception commune qu'on rencontre souvent autour de nous, à tout le moins ici, nous, au Québec. En effet, beaucoup de gens pensent que les religions sont des facteurs de division plutôt que d'unité pour l'humanité. Tu en as déjà entendu parler. Donc, de ce point de vue-là, la diversité des religions nuirait donc à l'intégration et à l'hospitalité. Tu as sans doute été confronté à cette question-là dès le début de tes recherches sur l'hospitalité, Claudio.
Absolument, et encore une fois, je souligne le fait que j'étais concerné par cette question, pas seulement d'une façon intellectuelle, mais existentielle, parce qu'en vivant en chrétien, au cœur d'une communauté infime, minoritaire, dans un océan caractérisé quand même par la référence islamique, comme la Turquie, effectivement, cette perception m'a toujours très, très interpellé et interrogé. Mais voilà pourquoi je pense qu'à ce propos, il convient d'écarter une première illusion, celle qui consisterait à croire que les vérités d'ordre religieux sont plus intolérantes que les idéologies, par exemple, athées. J'aimerais quand même rappeler que l'histoire récente du XXe siècle nous montre que les religions n'ont pas le monopole du fanatisme ni de la violence.
C'est bon de nous rappeler ça, tu as bien raison.
Évidemment, les pires génocides ont été le fait d'idéologies athées, comme le nazisme, comme le communisme soviétique.
Et oui, on oublie ça alors que ça ne fait pas très longtemps que ça vient de se produire.
Évidemment, on pourrait aussi évoquer le terrorisme de masse pratiqué par la Chine ou le Cambodge, etc. Donc, et ça, c'est un premier point. Il y a, je pense, une autre illusion à écarter, c'est celle qui conduirait à penser que les religions dites révélées, ou mieux, les religions qui se réclament d'une vérité révélée par un dieu personnel, c'est-à-dire en clair les trois monothéismes,
qu'on est habitué à les
appeler, soit les plus intolérantes, par exemple, plus intolérantes même que les religions païennes, les divers polythéismes,
vrai,
les religieux
oui.
sans dieu comme le bouddhisme.
Ça circule beaucoup autour de nous, ça, cette perception
spontanée. Parce que l'histoire nous enseigne que toutes les religions peuvent engendrer le fanatisme quand elles sont manipulées par le pouvoir politique pour défendre une cause, une race, une ethnie, une classe sociale, etc. Donc, au lieu de l'apaiser, il arrive souvent que le religieux ne fasse qu'attiser la violence spontanée qui s'exerce contre tous ceux qui sont indifférents ou minoritaires. Donc, alors, c'est indéniable, surtout après le 11 septembre 2001, le tragique attentat autour de jumelles, les religions, en particulier l'islam, sont sous procès.
Ah oui, c'est indéniable ça, que voilà. Depuis cet événement-là,
mais
les
voilà,
choses ont changé.
Encore une fois, je pense qu'il faut éviter tout automatisme, toute généralisation. Mais on ne peut pas éviter non plus le questionnement. Alors, finalement, est-ce que les religions contribuent vraiment à civiliser l'être humain et à une société plus juste, conviviale, ou sont-elles des facteurs d'hostilité, de guerre, de désunion? Et je pense que les religions monothéistes peuvent servir de justification à la violence, c'est un fait. Mais le danger, je pense, est grand de vouloir situer la violence dans une source unique. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que toute institution est porteuse de violence. Et la violence fait partie de l'humain. Elle est une constante anthropologique. Ce n'est pas la religion en tant que telle qui est violente. C'est la religion pratiquée par des êtres humains.
C'est
qui
ça.
Peut devenir justification à la violence.
Exactement. Indépendamment des religions, déjà dans l'être humain, dans ses rapports personnels qu'il a avec les autres, il y a là une source potentielle de désaccord, donc qui pourrait aboutir à la violence.
Et alors, le constat, c'est qu'on plonge, on vit dans une société hyper violente. Et alors, la grande question, c'est que, est-ce que les religions ont le pouvoir, encore aujourd'hui, de contribuer à humaniser, par exemple, la mondialisation? Ce qui veut dire relever le défi de la modernité, tout en sachant que la modernité a été le plus souvent vécue comme une menace pour les religions mêmes. Non? Et alors, je pense qu'il faut constater que nous trouvons devant un kidnapping de l'histoire des religions, par les intégristes, surtout.
Oui, c'est vrai que voilà. c'est eux qui sont à la source de cette image-là aussi, de cette association que voilà. Nous faisons spontanément.
Une infime minorité qui pourtant marque le rapport aux religions. Mais alors, il faut savoir aussi qu'on ne combat pas une idéologie avec une autre idéologie. Souvent, c'est le cas. C'est le cas. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, les hommes des religions, les rabbins, les imams, les pasteurs, les éducateurs religieux, doivent être conscients que seule une révision radicale dans la manière de promouvoir le judaïsme, le christianisme, l'islamisme, je pense, coupera l'herbe sous les pieds des intégristes.
Oui.
Je me souviens plus ou moins par cœur d'une phrase de Paul Ricoeur qui aimait rappeler que les religions, si elles doivent survivre, devront satisfaire à de nombreuses exigences et surtout il leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir autre que celui d'une parole désarmée. C'était une provocation particulièrement forte. Non? Et il insistait en disant qu'elles devront faire prévaloir la compassion sur la raison, doctrinale même.
Ah,
la
oui.
compassion sur la raison doctrinale. C'est-à-dire voir, retrouver le visage de l'homme. Retrouver leur vocation à service de l'humain véritable.
Oui, tout à fait. Qui est vraiment la spécificité des traditions religieuses quand on regarde historiquement tout ça, tout d'abord prend appui sur des valeurs semblables. Alors c'est probablement le rôle en effet des religions voilà. aujourd'hui de promouvoir ça.
Voilà. Tout en comprenant, alors en revenant tout particulièrement aux religions monothéistes, tout en comprenant que c'est pas possible d'affirmer les prétendus droits de Dieu contre les droits de l'homme. Parce que c'est en retrouvant l'homme, et en chrétien on peut le dire fort et clair, à partir de la logique de l'incarnation, en servant l'homme, c'est là qu'on retrouve Dieu et son visage. On ne peut pas dissocier, dirait l'Évangile, les deux commandements de l'amour au prochain avec le commandement de l'amour à Dieu.
Donc, on ne peut pas les opposer, c'est ça, là, dans le fond, la grande vérité qu'il y a derrière ça.
Et je reste convaincu que les traditions religieuses ont des richesses inouïes à apporter, même à la cohabitation sociétale. Et leur tradition d'hospitalité, je pense, est, en est un exemple. C'est pour ça que je me suis senti vraiment engagé à creuser davantage cette question.
Oui, oui, oui. En effet, qui trouvait une pertinence particulièrement évidente là, dans ce cas-là. Si on voit les choses de cet angle-là, tu as bien raison. Et ça donne une occasion, justement, de redécouvrir et de réarticuler ça en fonction du contexte social dans lequel nous sommes.
Tout à fait. Voici l'actualité d'un thème qui m'accompagne depuis 16 ans. Et parfois, là où le découragement pourrait survenir, voir l'actualité de la question m'a à chaque fois repoussé un petit peu, replongé dans ce travail de recherche quelque part.
Et est-ce qu'on pourrait même dire que ce sujet-là est maintenant encore plus actuel que quand tu as fait ces recherches-là ou...
Tout à fait. Mais il faut dire aussi que oui, on a l'impression que le thème de l'hospitalité maintenant, aujourd'hui, où ces vagues de centaines de milliers de désespérés de faire vers les côtes occidentales rendent le thème davantage d'actualité. Mais il ne faut pas oublier que c'est même la question de l'immigration, ce n'est pas une question des derniers mois. A changé quelque peu de visage,
oui.
Évidemment, parce qu'on est là face à des migrations carrément du désespoir, de gens qui n'ont pas simplement en toute liberté, cherchent un horizon de vie, un futur meilleur.
Ils veulent améliorer leurs conditions de vie, c'est ça, mais là.
Carrément pour survivre, s'échappent vers l'inconnu, tout en sachant que, très très souvent, d'entamer des voyages qui pourraient porter directement à la mort. Mais c'est de toute façon la seule option qui sont devant eux.
Exactement. Même avec ce risque-là, ces gens-là sont poussés et puis sont obligés de migrer.
Tout
vraiment,
à fait. Hein, tout à fait. Et parfois, dans la médiatisation qui nous déverse chaque jour, tout simplement des chiffres, derrière les chiffres, derrière les statistiques,
oui.
On perd l'importance et la profondité d'histoires humaines concrètes. Et il faudrait retrouver, dirait Lévinas, autre grand philosophe, trouver le visage, retrouver les visages qui racontent tant d'histoires, tant de désespoir, pour peut-être refaire un petit peu mémoire aussi des moments tristes où une partie de l'Occident même cherchait, il y a plusieurs décennies, un futur meilleur ailleurs que non pas, par exemple, au cœur de l'Europe.
Ah, c'est très bon, c'est très important de se rappeler ça, dans le fond, la situation de drame que vivent ces gens-là. Ils migrent parce qu'ils sont obligés de le faire. Nous arrivons maintenant au sujet même plus précis du colloque qui va nous occuper en fin de semaine et qui porte dans le fond sur la part des traditions religieuses à l'accueil que nous essayons d'élaborer avec nos migrants. Tu as vu là, depuis que tu es arrivé ici qu'il y a beaucoup question de migrants qui nous arrivent particulièrement de Syrie maintenant. Alors nous essayons au plan social d'avoir l'accueil qui soit le plus ajusté possible à cette nouvelle situation. Est-ce qu'on pourrait même dire que les traditions religieuses monothéistes, avec leur richesse, leur patrimoine d'hospitalité, pourraient nous aider à améliorer nos structures d'accueil, le processus d'accueil de tous ces gens-là? Est-ce qu'on pourrait même aller jusque-là?
Je pense que oui, sans doute. Tout d'abord, cette réponse mériterait un double niveau. Je l'ai dit dès le début, mon engagement sur le thème de l'hospitalité n'est pas tout simplement intellectuel. C'est un engagement qui a été suscité par une expérience au quotidien, une expérience d'hospitalité parfois même troublante, impressionnante, de ce monde proche-oriental, de ce monde oriental. Donc, d'un côté, je pourrais dire, en tant que croyant, chrétien, oui. je dis que je trouve impossible dissocier ma foi de l'exigence de l'accueil et de l'hospitalité, parce que je pense que c'est véritablement un cœur du message évangélique. Mmh. Sur ça, je pense que le Christ ne laisse pas beaucoup d'options, c'est très clair. La rencontre même de Dieu, dont lui nous dévoile le visage, passe par la capacité de reconnaître l'autre, et tout d'abord le pauvre, celui qui frappe à ma porte et qui demande une aide. C'est évident, c'est clair.
Oui, c'est ça. Pour bien rencontrer Dieu, il faut être en mesure d'accueillir l'autre, en
absolument.
Effet.
Absolument. Et donc, je dirais que cette exigence aujourd'hui, qui est le fruit d'un état d'urgence sociétale, c'est quand même un rappel au cœur de l'Évangile. On pourrait presque dire que les croyants devraient en faire une chance quelque part, une occasion pour renouveler les motivations d'une foi parfois un petit peu trop théorique, un petit peu trop tout simplement festive, comme si l'ordinaire du quotidien n'était pas trop concerné par ces sujets. Non, là, cet état d'urgence nous tire du côté de l'exigence vraiment de repenser à 360 degrés le sens de notre foi.
Alors, tout à fait. Hein, cette nouvelle situation historique fait en sorte qu'on peut redécouvrir des éléments importants de l'Évangile, certainement.
Et après, évidemment, il y a l'autre volet de la réponse qui est plus intellectuelle. Bien, dans tant d'années de travail, d'études sur les questions de l'hospitalité, au cœur des trois monothéismes, je pense que je peux répondre de façon positive à la question qui a été posée, c'est-à-dire je reste convaincu que non seulement déjà à partir des sémitismes, donc du berceau des trois religions abrahamiques, mais en creusant même l'arrière-fond des mythes, des symboles, des motifs littéraires dans la production littéraire profane aussi bien que sacrée, on peut véritablement dire qu'il y a un héritage de la culture proche-orientale qui est passé en Occident et qui fait que l'exigence de l'hospitalité est véritablement au cœur de ces fois abrahamiques. J'ai constaté que tout en ayant des degrés différents de cette pratique hospitalière, partout dans les régions abrahamiques, il y a une trace formidable de cette pratique. De plus, je dirais même que l'hospitalité n'est plus ici seulement la marque, disons, du raffinement d'une civilisation, s'exprimant par exemple dans la production littéraire, mais elle se sacralise, je dirais, en mêlant quelque part Dieu lui-même, car son attitude à lui devient une sorte de code moral de comportement pour les hommes. Et Dieu accueille sans cesse l'humanité qui frappe à sa porte. D'ailleurs,
nous sommes invités, c'est ça, à développer l'hospitalité, parce que c'est Dieu lui-même qui lui-même est hospitalier à l'égard des
humains. Tout à fait.
C'est ça.
Et je dirais même plus, tu as évoqué au début de notre entretien le livre que j'avais écrit déjà il y a 10 ans, le premier d'une série de réflexions sur le thème de l'hospitalité. Le titre était bien « Dieu hôte ». Et j'ai explicitement joué sur l'ambiguïté heureuse, je dirais, du terme « hôte
».
Qui, on sait très bien, en langue française, ça veut dire à la fois celui qui accueille, mais aussi celui qui est accueilli. Eh bien, qui s'est fait accueillir, eh bien, je reste convaincu que Dieu joue le double rôle. C'est pas seulement celui qui accueille l'humanité, mais l'inouï, c'est, surtout dans la tradition chrétienne, c'est celui qui frappe à la porte de l'humanité en demandant à son tour d'être accueilli. Par exemple, la fameuse référence du livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, non, je me tiens à la porte et je frappe. Ah, et oui. Je frappe. Ah, et si quelqu'un m'ouvrira, hein, j'entrerai et je partagerai le repas sacré, le repas de la communion. Donc, c'est quelque chose d'absolument fort, déterminant.
Et dis-moi, Claudio, est-ce qu'on trouve des thèmes semblables aussi au sein du judaïsme et puis de l'islam?
Ben, absolument, oui. Tout d'abord, l'idée d'un Dieu qui entend le cri de son peuple, par exemple, esclave en Égypte, et donc qui descend en exil avec son peuple, en se faisant donc, on pourrait dire aujourd'hui, migrant parmi les migrants. C'est un thème déjà, évidemment, de la tradition de l'Ancien Testament, donc de la tradition juive. Et je dirais que, dans la sensibilité juive, l'hospitalité reste une institution, un devoir moral, hein, que par exemple, tous les rabbins jugeront même plus important que le don de la présence divine elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une constatation qui est intimement liée à une considération qui est éminemment théologique. On le sait bien, dans la révélation biblique, dans la compréhension juive, est tout d'abord une éthique, le rapport avec Dieu. Il n'est pas de l'ordre d'un dévoilement où l'on comprend qui est Dieu, mais plutôt de l'ordre d'une action dans laquelle on découvre ce que Dieu fait pour l'homme. Les Juifs, de père en fils, se racontent l'histoire d'une présence de Dieu à côté de son peuple. Pas la définition d'un Dieu. Pas l'essai de saisir Dieu par une définition métaphysique, comme après la culture occidentale, influencée par la philosophie grecque, etc.
Oui, et puis la tradition chrétienne, beaucoup. Hein, nous avons développé beaucoup cet aspect-là. Voilà. Mais c'est vrai, le judaïsme est plutôt de l'ordre d'une pratique, tout d'abord.
Absolument. Et l'idée, c'est plutôt que Dieu... C'est pas celui qui se définit par une définition métaphysique, mais c'est celui qui accompagne son peuple, qui le châtie quand il faut, parce que voilà, lui, il est fidèle, mais son peuple très souvent déraille et répond pas à ses dons et à ses fidélités. Donc, de façon pédagogique, Dieu qui renoue sans cesse ce rapport avec son peuple, etc. Donc c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au cœur de la question de l'hospitalité. Ça veut dire que cette image du Dieu qui agit devient à la base de la justice biblique, comme réseau véritable de rapports qui favorisent la vie et la dignité de tous les êtres humains. Voilà, alors que, par exemple, Abraham et Job, deux grandes figures de l'Ancien Testament, sont normalement cités en exemple comme modèle d'hospitalité. Et l'Agada, non, qui est la tradition, non, des récits, le florilège de textes liturgiques empruntés à différentes époques de la tradition juive. Oui. L'Agada présente plusieurs légendes à l'égard d'Abraham et Job. Par exemple, nous raconte que les portes de leur maison étaient ouvertes sur les quatre côtés, vers tous les points cardinaux, évitant aux pauvres, justement, venant des régions les plus disparates, de tourner en ronde avant de trouver une maison qui les accueille.
Ah, oui.
Donc, les accueillant par excellence. Et ce n'est pas inconnu non plus par l'islam, cette idée.
On va peut-être à ce moment-là y revenir un petit peu, notre dernière partie d'entretien.
Claudio.
Jusqu'à maintenant, Claudio, nous avons vu l'apport de la tradition chrétienne. Tu nous as retracé aussi celui de la tradition juive pour la question de l'hospitalité. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de similaire aussi du côté de la tradition musulmane.
Oui, sans doute. Dans l'islam, la notion, je dirais, fondamentale à la base de la pratique de l'hospitalité est plutôt celle de la protection. La protection ou le voisinage, le jara, donc un terme qui renvoie au jar, c'est-à-dire à la personne protégée, aussi bien que moins fréquemment au protecteur. Et cette notion, comme déjà le terme hébreu, non, de guerre, prennent une signification, je dirais, socio-religieuse, non, parce qu'elle harmonise la protection octroyée par les humains à la protection divine elle-même. Car, en effet, le véritable protecteur est Dieu, et nul n'accorde la protection contre son vouloir. Voilà aussi, là, encore une fois, une sacralisation du beau geste de l'hospitalité, qui n'est pas tout simplement une attitude de bienveillance humaine, une bonne pratique, une coutume tout simplement humaine, mais implique, Dieu se mêle encore une fois dans cette attitude fondamentale.
Sous l'angle de la protection.
Sur l'angle de la protection, que évidemment, si on réfléchit théologiquement sur ces données terminologiques, et même sur les pratiques sociales, on constate que dans la pensée islamique, je pense que l'idée d'une commune soumission à un principe unique et unificateur est bien plus fondamentale que celle d'une commune responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et fut-il un frère du même clan ou un pèlerin connu. Et donc, si l'on privilège le concept de protection divine à celui d'hospitalité humaine, c'est clair que dans un contexte islamique, on préférera peut-être analogiquement parler de proximité plutôt que de communion, qui est une notion, à proprement parler, plutôt chrétienne, plus que islamique. Mais de toute façon, nous comprenons très bien que la souveraineté absolue de Dieu est le fondement, encore une fois, de toute attitude humaine, même vis-à-vis de son semblable. Et donc, l'islam, qui a la prétention de parler d'un Dieu sauveur et protecteur, pas tout simplement d'un petit groupe, mais de l'humanité, au sens général du terme, nous ouvre à l'exigence d'être attentif à notre tour, à être prochaine de celui qui arrive, parce que lui, comme moi, est sous la protection divine.
Ah oui, c'est intéressant de voir en effet comment eux parlent de ça à partir de leur...
Exactement.
C'est magnifique, merci bien Claudio. Je souhaiterais qu'on termine ce grand entretien par, dans le fond, en revenant concrètement à l'actualité qui évidemment nous arrive par la télévision, la radio, tout ça. Alors qu'il y a un peu plus de 25 ans, on voyait le mur de Berlin s'effondrer et avec tout le changement que cela a pu occasionner en termes libérateurs. Or, depuis plusieurs mois maintenant, on voit en Europe des pays qui refont la même chose, qui sont en train d'ériger des murs justement pour endiguer le flot des réfugiés. Alors, est-ce que ça paraît pas un peu naïf et anachronique de parler d'hospitalité aujourd'hui dans un contexte semblable? Qu'est-ce que toi, tu penses de ça?
Mais je pense que c'est beaucoup plus naïf et anachronique penser de pouvoir endiguer les mouvements aujourd'hui par des murs. C'est vrai, ces murs se relèvent en général inefficaces dans un monde où, pour d'autres raisons, les distances ont été progressivement éliminées, on le sait. Les séparations rendues de plus en plus anachroniques, c'est quand même intéressant. Je me le dis souvent, constater que à quel point le néolibéralisme économique veut intensifier entre Sud et Nord la libre circulation, par exemple, des marchandises et des capitaux, bien entendu, à des conditions qui lui sont fort avantageuses. Par contre, il ne souhaite pas la libre circulation des personnes qui corromperaient l'identité nationale. C'est ça qui est véritablement anachronique. Et on ne peut pas endiguer des phénomènes que d'ailleurs les experts nous disent ne sont qu'au début. Actuellement, on est en train d'assister à un déferlement impressionnant de migrants du désespoir. Au fond, à cause de crises qui sont relativement locales. Mais ils nous disent aussi que dans 25 ans, par exemple, des états d'urgence comme le manque d'eau portera à des déplacements dans l'ordre de 50 millions, peut-être plus, de personnes du sud du monde vers le nord du monde. Il faut le savoir.
Il faut le savoir. Et il faut intervenir sur les origines de ces catastrophes.
Oui, oui, évidemment.
Avant que de penser tout simplement de se cacher la problématique par un mur de plus en plus haut, qui, je répète, n'est pas une solution au problème. Non, je pense que l'hospitalité est de plus en plus nécessaire. Et d'ailleurs, l'hospitalité implique la reconnaissance de l'humanité de l'autre.
C'est comme si c'était l'occasion pour nous d'avancer justement dans notre façon de comprendre l'être humain.
Absolument. Et il ne faut pas oublier que du moment où je reconnais l'humanité de l'autre, par là, je commence un chemin aussi de redécouverte de ma propre humanité. L'humanité de l'homme occidental, que chosifié dans une culture marchande où plus rien n'est gratuit.
Notre société de consommation, en effet, hein, qui entretient certaines valeurs puis certains comportements
entre
nous, nous amène à mettre de côté peut-être des aspects qu'on aurait intérêt à redécouvrir. C'est ça que tu veux dire là-dedans?
Et donc, c'est par l'hospitalité, je pense que nous nous mettons sur les traces d'une véritable relation à autrui, mais aussi à la création tout entière. On vient d'évoquer les problèmes futurs qui nous attendent.
Oui.
Par exemple, au niveau de climat, etc. Donc, est fondamental revenir à ces notions essentielles. Et je pense qu'il faut aussi dire, lorsque je parle à partir de mon humanité, je veux que ceux qui m'écoutent puissent reconnaître leur humanité. Quand je dis « je veux qu'ils disent « moi » aussi. Et s'ils saisissent mes doutes, mes hésitations, mes luttes, mes surprises, mes joies, alors je pense qu'ils reconnaîtront aussi les leurs. Et donc, au fond, l'hospitalité, c'est une chance. Et je voudrais dire aussi qu'il y a un besoin dramatique, urgent, de retrouver ce sens de l'humanité, par exemple, même au cœur des crises actuellement qui traversent le Proche-Orient. Et alors, par exemple, par rapport à ça, je voudrais dire assez avec la comptabilité confessionnelle sélective des victimes de la tragédie du Moyen-Orient.
Oh là, c'est une vraie question. Là.
Voilà, parce que la sacralité de la vie humaine, et il faut l'affirmer à 360 degrés, ce qui se passe en Syrie, ce n'est pas tout simplement la tragédie d'une minorité chrétienne, c'est une tragédie humanitaire. Et il n'y a pas de futur du Proche-Orient, tout simplement pour les chrétiens vivant dans une bulle ou pour les musulmans vivant dans une enclave. Le futur, c'est encore une fois dans la rencontre, comme d'ailleurs l'histoire de ces pays nous témoigne. Parce que c'est une histoire aussi de vie ensemble, de partage. Et alors voilà que je pense que effectivement le thème de l'hospitalité redevient une pierre de touche, une plaque tournante autour de laquelle reconduit tant de réflexions spirituelles, théologiques et même anthropologiques aujourd'hui essentielles. Je me souviens que le bon vieux Jean Danelou nous rappelait qu'on peut dire que la civilisation a franchi un pas décisif et peut-être son pas décisif le jour où l'étranger d'ennemi est devenu hôte. C'est-à-dire le jour où la communauté humaine a été créée. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à cette notion fondamentale.
Ah oui.
L'homme, c'est beaucoup plus qu'une marchandise. Et derrière cette tendance à tout chosifier, à tout rendre économique, il faut se rendre compte que l'économie est humaine dans la mesure où elle sert l'homme et pas asservit l'homme. Elle-même.
Ça nous donne l'occasion de mettre un peu d'ordre à l'intérieur de tout ça, retrouver vraiment l'importance, dans le fond, d'assurer des qualités humaines à tout le monde.
Tout à fait, tout à fait. Et je répète encore une fois, il en va aussi de notre futur. Nous, on a au fond besoin de retrouver notre propre humanité. Je pense que les murs qui se dressent, qui se multiplient, on a vécu avec tant d'émotions, en Europe surtout, la chute du mur de Berlin, semblait ouvrir des perspectives extraordinaires.
Très rapidement.
Et je me rappelle, en jeune, à l'époque, je partageais cette joie, ces émotions. On avait l'impression d'être acteur d'une société qui pouvait vraiment ouvrir des horizons nouveaux.
C'est vrai.
Maintenant, on se retrouve coincé, isolé dans des murs qui sont deux fois, trois fois plus importants qu'à l'époque, comme si l'histoire était incapable de nous apprendre véritablement sa leçon quelque part. Donc je pense que véritablement on a besoin de revenir à ces concepts fondamentaux parce qu'il y a une maladie qui est celle de l'Occident, pas tout simplement du Proche-Orient qui s'échappe désespéré, et qui est la maladie d'une solitude, la peur de l'autre qui est au fond, la peur d'aller jusqu'au bout de sa propre identité.
C'est très intéressant comme nouvelle façon de voir les choses, Claudio. On a tout intérêt, en effet, à creuser ce thème-là et à devenir de plus en plus familier avec cette grande question qui nous donne l'occasion d'avancer dans notre humanité. Claudio, je te donne l'occasion en quelques mots de tenter une conclusion à cette belle réflexion que tu as commencé à faire naître entre nous.
Bien, merci tout d'abord de cet échange. Je me rends compte qu'on a traité des questions énormes et c'est relativement facile de le faire assis à une table. Mais quand même, au quotidien, en vivant par exemple en chrétien en terre de Turquie, terre d'Islam, je me rends compte quand même que ces temps de crise, de tragédies même aiguës, peuvent devenir malgré tout une chance, parce que on fait fortement l'expérience d'un Dieu qui convertit son altérité radicale en proximité indicible, et toute l'histoire du salut est le récit de ce rapprochement de Dieu aux hommes. Et aujourd'hui, faire cette expérience devient aussi une tâche qui se renouvelle, qui m'invite librement à aimer à la mesure de Dieu. Donc à exercer ma liberté dans le sens de l'accueil de l'autre. Donc merci aussi de votre accueil, de la possibilité de croiser de nouveaux visages, de partager ces grandes questions, même au-delà de l'océan, où n'oubliez pas que les grandes vagues de ces migrations n'arrivent que déjà estompées par rapport aux chiffres qu'on a, nous, au sud et au nord de la Méditerranée.
C'est vrai,
Mais c'est important qu'ensemble, on soit vraiment acteurs pour construire une société inclusive et pas exclusive xénophobe, c'est-à-dire une société qui a peur de l'autre, a peur de l'étranger. C'est au fond là qui s'exprime peut-être une peur de soi-même. Et par contre, il faut s'aimer, il ne faut pas avoir peur de soi-même.
Merci Claudio, on a fait de nous donner l'occasion de voir que c'est justement une belle occasion d'aller plus loin dans notre façon de voir l'être humain.
Merci à vous.
C'était votre émission Foi et Turbulence de cette semaine. Un grand merci encore à mon invité, le frère Claudio Monge. Je vous invite à visiter le site de l'Institut de Pastoral au www.ipastoral.ca. Vous y trouverez l'ensemble de notre programmation, ainsi que les informations détaillées sur le colloque dont j'ai parlé au début, Dieu hôte et accueil de l'hôte, l'hospitalité des religions abrahamiques, colloque que nous organisons avec le Centre Justice et Foi des Jésuites. Alors, c'est un beau projet jésuite dominicain. Et colloque qui se tiendra donc à l'Institut pastoral les 26 et 27 février prochains, dont la conférence d'ouverture va être prononcée justement vendredi soir à 19h30 par le frère Claudio dans notre église des Dominicains. Je tiens à remercier aussi tous ceux et celles qui ont collaboré à cette émission. Un merci tout spécial à Daniel Fortin pour son savoir-faire à la régie. Ici Bruno Demers de l'Institut de pastoral des Dominicains. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission de Foi et Turbulence et je vous invite à poursuivre votre journée sur les ondes de Radio VM.